le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour votre service protestant à l'occasion de ce premier dimanche de septembre. Une journée tout à fait spéciale en plus avec trois rendez-vous. Ce moment, maintenant, suivi de culture protestante. Et puis à 11h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le culte en direct depuis l'Assemblée du désert dans les Cévennes. J'accueille ce matin la pasteur Pascal Renaud Grosbras de l'Église protestante unie de France. Bonjour Pascal.
Bonjour Jean-Luc.
Alors c'est quoi la Bible? Une drôle de question à laquelle vous allez tenter quand même de répondre ce matin. Alors bien sûr, demander à une pasteur protestante de parler de la Bible n'est pas particulièrement surprenant, mais nous voulions consacrer plus spécialement cette émission à cette question. Parce que l'Assemblée du désert, qui se déroule donc ce week-end à Mialet en Occitanie dans les Cévennes, a choisi comme thématique une Bible à la main, reprenant la formulation satirique de Boileau, tout protestant et pape, une Bible à la main. Alors cette Bible, justement, en tant que pasteur, j'imagine qu'elle est souvent dans votre main, mais quelle place joue-t-elle plus précisément dans votre vie, dans votre ministère?
C'est une place différente tous les jours. Parfois c'est un réconfort, parfois une interpellation, parfois c'est un encouragement à regarder les événements autrement. Ce que je préfère, c'est la lire avec d'autres. Mais si vous le permettez, Jean-Luc, ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire. Au début de cette histoire se trouve le port de Byblos, en Grèce. C'est par là que transite le papyrus qui vient d'Égypte, on en vient du coup à appeler ça du Byblos. Un rouleau ou un livre qui est fait à partir de feuilles de papyrus devient, pour les Grecs, un biblion. Quand la Bible hébraïque a été traduite en grec vers 270 avant Jésus-Christ, c'est ce mot, biblion, qui a été utilisé pour traduire l'hébreu sépher, livre. Et comme il y a beaucoup de livres, on dit ta biblia, c'est du pluriel. Pour ce qui est du Nouveau Testament, les derniers livres à être écrits, les plus proches de nous, ont été écrits vers la fin du 1er siècle. Or, à ce moment-là, il n'existe pas de collection constituée des écrits chrétiens. Il n'y a pas encore de Nouveau Testament. En d'autres termes, au moment où ils écrivent, les auteurs du Nouveau Testament ne savent pas qu'ils sont en train d'en écrire un bout. C'est bien plus tard, au 3e, 4e siècle, que le corpus du Nouveau Testament sera arrêté avec les 27 livres qui le constituent, et puis accolé à ce qui sera désormais appelé Ancien Testament. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Alors c'est étonnant quand même de participer à l'écriture d'un livre sans en être conscient. Mais justement, cet Ancien Testament, comme on dit, ses auteurs le connaissaient-ils comme nous l'avons, nous, aujourd'hui, de la même façon?
Alors, au moment de la séparation entre la toute jeune Église et le judaïsme, où elle a vu le jour, à la fin du 1er siècle, le judaïsme aussi est en pleine évolution. Il faut se souvenir qu'en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit par l'armée romaine après un terrible siège de la ville. La ville est rasée et incendiée, la population est massacrée. Le judaïsme perd alors le temple, c'est-à-dire le cœur de la vie religieuse, le lieu centralisé où avaient lieu les sacrifices prescrits par les textes. Il perd aussi les autorités sacerdotales qui exerçaient au temple. Le culte prend alors une nouvelle forme. La prière devient le centre du culte, et puisqu'il n'y a plus de sacrifices, le culte peut prendre place dans des nouveaux lieux, les synagogues, sous la conduite non plus de prêtres, mais de savants, les rabbins. Au cœur du judaïsme désormais, il va y avoir les écritures plutôt que le temple. Vers l'an 90, un synode se tient à Yavné, où le canon des livres bibliques, de la littérature hébraïque, va être clos. Et rappelez-vous qu'au même moment, les chrétiens écrivent ce qui va devenir leur propre littérature religieuse. On pense que les autorités juives ont eu la volonté d'empêcher que ces écrits deviennent normatifs aussi pour les communautés juives. Et clore le canon, c'est éviter que ces écrits chrétiens qui circulent dans le judaïsme soient considérés comme saints, au même titre que la Torah, les prophètes et les écrits. Donc voilà, à la fin du 1er siècle, on a d'un côté un corpus propre au judaïsme et de l'autre, les premiers écrits chrétiens. Or, les auteurs chrétiens s'appuient sur la littérature religieuse juive. Pour expliquer que le Christ est Christ, ils vont chercher dans cette littérature les traces de ce qui pouvait l'annoncer. Et c'est avec des échos de cette littérature antérieure, de tous les livres qui les précèdent, que se tissent les textes chrétiens. Donc, pour les premiers chrétiens, y compris les auteurs du Nouveau Testament, il existe les livres, ta Biblia, qui désignent l'ensemble des livres reçus de la tradition hébraïque. Et puis, il existe peu à peu des ouvrages qui circulent dans les églises locales, mais qui n'ont pas encore de structure précise et qui ne font pas partie des livres saints. Il y a des lettres, il y a beaucoup de lettres, celles de l'apôtre Paul notamment. Et puis, petit à petit, des récits qui racontent la vie de Jésus, ce sont les évangiles, et encore d'autres textes issus d'autres genres littéraires. Il se crée ainsi petit à petit une bibliothèque, un ensemble de livres, ta Biblia, beaucoup de livres, dont certains sont reconnus comme canoniques, et d'autres plus récents, dont personne n'imagine encore qu'ils formeront un tout un jour avec les premiers. Ou pour le dire autrement, pour Jésus, comme pour les premiers chrétiens, la Bible telle que nous la connaissons n'existe pas. Et concrètement, tous ces livres sont difficiles à manipuler parce qu'ils ne sont pas encore sous forme de livres, justement, en tout cas pas tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils sont volumineux, ils coûtent très cher à produire et à copier. Heureusement, il va y avoir l'invention du codex, c'est-à-dire des cahiers reliés entre eux, d'abord en papyrus puis en parchemin, ce qui va permettre de créer des collections d'écrits qu'on peut rassembler, mettre en ordre et consulter bien plus facilement que les rouleaux. Et puis, peu à peu, le latin remplace la langue grecque comme langue de l'Empire. Le grec « ta biblia », les livres, au neutre pluriel en grec, va être transposé tel quel en latin, et « biblia » en latin, c'est du féminin singulier. La Bible est née. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Cette collection de livres, qui est devenue un livre à part entière, dépend de manuscrits anciens qui disparaissent peu à peu. Il n'existe aujourd'hui plus aucun manuscrit datant de l'époque de leur écriture. Ceux qui nous sont parvenus sont des copies de copies de copies de manuscrits originaux. Tous ces manuscrits, connus aujourd'hui, ne concordent pas toujours. Il y a même parfois des différences majeures, des variantes.
Mais alors, comment faire pour choisir lesquels seraient les bons, si l'on peut dire, par rapport aux autres ?
Eh bien, pour en arriver à la Bible que nous connaissons aujourd'hui, il faut faire des choix entre les différentes versions des différents manuscrits. Si vous prenez une Bible annotée, par exemple, vous verrez que les notes indiquent des variantes des textes, parce que dans certains manuscrits, il y a des différences avec la variante retenue. Parfois, c'est juste un mot, mais ce sont parfois des différences vraiment importantes, avec un sens très différent. Qui décide quelle version retenir ? Quelle version est la bonne ? En fait, on ne peut pas savoir quelle version est la bonne comme ça dans l'absolu. On fait des lectures comparatives, on examine le contexte et puis on tranche. Mais la recherche évolue et parfois les exégètes en viennent à abandonner certains choix parce qu'ils ont découvert qu'un autre choix était meilleur. Le bon choix dans l'absolu, ce serait de revenir au manuscrit original, mais les manuscrits originaux ont disparu.
Alors, finalement, peut-être que, si l'on peut dire les choses aussi ainsi, le scoop du jour, ce serait que la Bible n'existe pas, hein, finalement.
On peut le dire comme ça.
Ça ne vous choque pas, en tout cas.
Un peu. Mais en plus, à l'origine, les différents livres de la Bible sont écrits majoritairement en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. Alors forcément, les Bibles que nous achetons de nos jours ne sont effectivement pas la Bible ce sont des traductions. Et il y a de nombreuses traductions différentes dans de nombreuses langues différentes. Alors c'est vrai, d'une certaine façon, la Bible n'existe pas. Ce que nous tenons dans nos mains aujourd'hui, c'est le résultat d'un très long processus d'écriture, de transmission et d'appropriation. Il a fallu une multitude de témoins pour qu'elle nous parvienne. Alors évidemment, dire « la Bible n'existe pas », c'est provocateur.
Oui, c'est clair.
Mais si je le dis comme ça aujourd'hui, c'est pour souligner une chose importante. Le texte biblique ne va pas de soi. Ceci dit, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de relativiser l'autorité des Écritures. Au contraire, reconnaître à nos textes de référence l'inscription dans une histoire, avec tous les aléas qui vont avec, c'est bien dire que Dieu est venu nous rejoindre dans l'histoire, et que les traces que nous en avons sont à accueillir comme témoignage d'une parole qui résiste à l'histoire, aux incertitudes des inventions humaines, le codex, l'imprimerie, le numérique aujourd'hui, et aux trahisons de traduction, et encore à l'interprétation que nous en faisons. Et c'est dire aussi que Dieu seul est sacré, les Écritures, elles, sont saintes, c'est-à-dire mises à part, parce que nous reconnaissons que nous ne les traitons pas comme des documents ordinaires, mais pour y chercher les racines de notre fidélité à Dieu, parce que notre lecture de croyant est éclairée par lui.
Sur France Culture, dans ce service protestant, je reçois la pasteure Pascale Renaud-Grosbras qui nous plonge dans l'histoire passionnante d'un livre pas tout à fait comme les autres et à maintes égards. On a vu très rapidement comment les Écritures en sont venues à être la Bible, mais pourquoi lit-on cette Bible? Qu'est-ce qu'on y trouve plus précisément?
Tout dépend en fait de ce qu'on y cherche. Et à ce propos, je repense à l'expérience vécue par le réformateur Martin Luther. À l'époque où il était encore moine, il était chargé d'enseignement biblique à l'université de Wittenberg. Il connaissait la Bible. Il la lisait dans les langues originales, il la traduisait, il connaissait les travaux des exégètes de son temps. Or, tout moine qu'il était, et même moine irréprochable, comme il le racontera bien plus tard, il se trouve empêtré dans un sentiment de culpabilité permanent, entraîné malgré lui vers la conviction d'être pécheur en dépit de ses plus grands efforts vers la sainteté. Il lit et relit les Écritures, et tout particulièrement les Épîtres de Paul, ces lettres que l'apôtre envoyait aux églises où il traitait des sujets soulevés par la toute nouvelle foi en Christ. Ça se passe en gros pendant les années 50-60 de notre ère, c'est-à-dire à un moment où les chrétiens quittent tout juste les synagogues et ça ne se passe pas sans mal. Des tas de questions se posent, notamment s'il faut respecter les prescriptions propres au judaïsme quand on devient chrétien. Des questions pratiques, mais qui se posent théologiquement parce qu'il faut bien trancher à partir du bouleversement radical introduit par le Christ. Qu'est-ce qui rend juste devant Dieu, par exemple? De respecter les commandements? De simplement croire, Mais alors, que veut dire croire? Qui décide? Comment ça se manifeste?
Beaucoup de questions.
Beaucoup de questions. Et Luther, donc, relie les lettres de Paul, et tout particulièrement celles aux chrétiens de Rome. Et dans l'état d'inquiétude profonde où il se trouve, il tombe sur ce passage, c'est au premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, les versets 16 et 17.
Alors je vais lire. « C'est sans honte en effet que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui, les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. »
Luther se cogne le nez à ces deux versets. Une chose en particulier l'accable, la justice de Dieu. Lui qui est si inquiet de sa perfection, si désireux d'être conforme à ce que Dieu attend de lui, il n'arrive pas à se persuader qu'il est digne de la justice de Dieu. Il n'arrive pas à être sûr que le jugement de Dieu sur lui le trouvera acceptable. Plus il s'inquiète, plus il cherche à atteindre la perfection, plus il réalise qu'il en est incapable et que le jugement de Dieu le trouve inacceptable. C'est un cercle vicieux. Cette chose infiniment désirable, le salut, lui échappe. Et plus il réalise ça, plus il sent s'éloigner l'Évangile, cette autre chose infiniment désirable, cette bonne nouvelle qui dit qu'un homme, Jésus, est le Christ et qu'il est venu dans le monde pour sauver les humains. Luther ne se sent pas sauvé. Il ne sait plus comment réconcilier la bonne nouvelle et le jugement de Dieu. Ces deux choses qu'il convoite, la justice et l'Évangile, sont incompatibles et lui échappent. Il n'y arrive pas. Voici ce qu'il dit. « Moi qui, vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée et ne pouvais trouver la paix par mes bonnes actions, je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs. Et je m'indignais contre ce Dieu, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. » Qu'est-ce qui se passe quand ça nous arrive? Qu'est-ce qui se passe quand on cherche dans les Écritures une chose qui nous échappe désespérément? Pour Luther, il a fallu très longtemps pour que quelque chose se débloque, mais il n'a pas lâché le morceau. Comme il le raconte, il a continué à bousculer Paul, désirant ardemment savoir ce qu'il voulait dire. Il médite jour et nuit, et finalement, Dieu ayant pitié, dit-il, il remarque l'enchaînement des mots. Il n'y a pas que la justice de Dieu dans ce passage. Il y a aussi une citation du prophète Habacuc. « Le juste vit de la foi. » D'ailleurs, Paul aime tellement cette citation qu'il l'a déjà utilisée dans l'Épître aux Galates, quelques années avant celle aux Romains. « Le juste vit de la foi. » Qu'est-ce que Luther entend ici? Que le juste vit du don de Dieu, c'est-à-dire la foi. En d'autres termes, la justice de Dieu, c'est un don, c'est ce qui fait vivre le croyant. Ou pour le dire encore autrement, la justice de Dieu, c'est ce qui nous rend juste. Il croyait, avant ce moment, que la justice c'était cette chose qui vient punir. Et évidemment, il avait peur de cette chose, même en étant le meilleur des chrétiens qu'il pouvait être. À la lecture des Écritures, tout à coup, il découvre que la justice, ce n'est pas ce qui vient condamner et punir, c'est ce qui fait vivre. Le juste vit de la foi, ça veut dire Dieu donne la justice, il rend juste. Celui qui reçoit la justice de Dieu est rendu juste, pas puni, justifié. Luther le dit ainsi, la justice de Dieu, c'est celle dont Dieu nous revêt en nous rendant justes.
Alors en vous écoutant, j'ai le sentiment que c'est un total changement de paradigme. Et si l'on réfléchit bien à tout cela, voilà, il y a cet enjeu-là, revoir totalement les choses autrement.
En effet. Et ça peut ressembler à une terrible façon d'ergoter, mais en fait, ça change tout. Et pour reprendre les mots de Luther, « Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'écriture m'apparut sous un autre visage. Je parcourais ensuite les écritures telles que ma mémoire les conservait et je relevais l'analogie pour d'autres termes. Ainsi, l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu opère en nous. La puissance de Dieu, c'est celle par laquelle il nous rend capables. La sagesse de Dieu, celle par laquelle il nous rend sages. La force de Dieu, le salut de Dieu, la gloire de Dieu. » Pour Luther, tout a changé. Le visage de Dieu, à la lecture des Écritures, est radicalement différent. On découvre alors un Dieu qui n'est pas du tout intéressé par une relation marchande, comme s'il nous donnait le salut ou la gloire ou la force en échange de notre obéissance aveugle. Il ne nous donne pas des objets, des choses. Il entre dans une relation de confiance avec nous. La justice est ce qui nous rend juste face au Dieu juste, ce qui nous fait entrer dans un équilibre avec lui et avec nos prochains. La force qu'il nous offre est celle qui nous maintient dans ce lien avec lui. Et oui, ainsi le paradis s'ouvre. Nous sommes en relation avec Dieu parce que c'est le choix qu'il fait de nous considérer comme des êtres capables de relations. Le juste vit de la foi. Ça veut dire, les humains qui mettent leur foi, leur confiance en lui, vivent vraiment en lien avec lui, dans la justice et la justesse. C'est une révélation qui a déchiré le ciel, parce que c'est un nouveau soleil qui se lève sur nos vies lorsque vraiment nous le croyons. Comprendre cela, c'est être délivré de tous les dieux obscurs et accusateurs, de tous les dieux qui ne nous aiment qu'à condition d'être conformes, qu'à condition de faire ce qu'il faut. Il ne faut rien, c'est donné. Et ça ouvre à tellement de nouveautés.
Un changement de paradigme donc, comme je le disais, concernant la foi, mais plus largement la vie, l'existence humaine, pour Luther donc, mais qui est offerte à tous, si je vous comprends bien. En tout cas, merci pasteur Pascal Renaud Grosbras pour cette petite histoire rapide, mais ô combien enrichissante, de ce que nous appelons la Bible et de ce qu'elle peut produire comme révélation qui déchire le ciel, pour reprendre cette belle expression que vous avez utilisée. Voilà, nous arrivons au terme de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, avec à la prise de son Manon Houssin, et aujourd'hui notre invité, la pasteur Pascal Renaud Grosbras. Pour nous écrire, une adresse, service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ou par email à communication@fédérationprotestante.org. Cette émission est disponible sur le site de franceculture.fr et protestant@fr, en audio et dans une version texte. C'est aussi en podcast que vous pouvez nous réécouter sur l'application de votre choix sous l'intitulé « Service protestant ». Je vous rappelle notre rendez-vous tout à l'heure à 11h précise pour vivre en direct sur France Culture, le culte depuis l'Assemblée du désert. Mais tout de suite, c'est Culture protestante.